les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1989, Serge Danet recevait Chantal Akerman pour deux numéros de Microfilm. Dans le premier volet, Serge Danet s'entretenait avec la cinéaste à propos de son dernier film, Histoire d'Amérique. Un film sous-titré « Food, Family and Philosophy » tissé dans la nuit de New York de tous les récits d'une histoire juive de l'Europe à l'Amérique, dont Chantal Akerman disait. Ce film est un travail sur le souvenir, mais des souvenirs inventés. Il est fait de tant d'histoires, histoires restées en travers de la gorge des parents. Et pour rester dans ce qui me reste de tradition, je n'ai pu échapper aux histoires drôles qui se sont fichées là, au milieu de tout et tout le temps. Ces histoires drôles, parfois consolatrices, et qui permettent de survivre à l'histoire par le rire, un rire qui prend source dans la détresse même.
Microfilm. Microfilm, bonsoir. Dans la grande série Étonnant qu'on n'ait pas parlé plus tôt, avec lui ou avec elle, Chantal Akerman, à l'affiche avec Histoire d'Amérique. Je le dis d'emblée, on va faire deux microfilms avec Chantal. Un évidemment sur le film, et puis un second tour d'horizon. Je crois que ça vaut le coup de faire des tours d'horizon avec des cinéastes qui, de temps en temps, envoient de leurs nouvelles. Moi, ce qui caractérise ton cinéma, Chantal, c'est un titre d'un de tes films qui s'appelait News from Home, qui était un film qui était passé, ça fait assez longtemps maintenant, et même un peu inaperçu. C'était un film extrêmement rude et assez ascétique comme ça. Il était fait également sur l'Amérique. C'était une lettre, c'était des lettres. Et je pense que ton cinéma, c'est de plus en plus, mais tu n'es pas la seule, de temps en temps, on donne de ses nouvelles. Et alors, il y a des gens qu'on aime bien, donc on est content d'avoir une fois tous les deux ans, tous les trois ans, plus souvent s'il se peut, de savoir où ils en sont, vu qu'on sait en gros autour de quoi ils tournent, autour de quoi ils travaillent depuis un certain temps, et que ça ne va pas changer fondamentalement parce qu'on n'a qu'une vie, et que plus le temps passe, plus on sait qu'on a après à charge de d'élucider, de domestiquer, d'approfondir, de ne pas oublier, ou au contraire d'oublier certaines choses. Donc là, c'est un film qui s'appelle Histoire d'Amérique, et comment dire, c'est un film sur l'être juif, la façon d'être juif, devant une caméra, de raconter des histoires, de raconter son histoire, et donc voilà où tu en es. C'est-à-dire, maintenant, News from Home, c'est « Home », c'est « Je suis juive », ça n'apparaissait pas dans les premiers films plus ou moins expérimentaux en Amérique, ou pas directement. C'est revenu par la bande, je me rappelle, dans les Rendez-vous d'Anna. Et puis là, ce qui est fort dans le film, c'est que c'est le film. C'est-à-dire, c'est frontalement, on essaie de faire une représentation. Donc on se coltine tous les problèmes de la représentation du cinéma, c'est-à-dire fixe ou en mouvement, personnage ou figurant, caméra qui bouge ou caméra qui ne bouge pas, histoire drôle ou pas drôle. Et on essaie de faire un film avec une progression, donc qui n'est pas dramatique, mais qui est une progression quand même, et qui ne s'évade pas de son sujet. Alors je suppose qu'évidemment tout ça a mûri très très longtemps en toi avant d'arriver à ça, mais je crois que ça vaut le coup de, à la fois que tu racontes comment ça a mûri, et puis comment le traitement s'imposait aussi à toi. Comment faire comme ça et pas autrement, parce que ça, ce sujet n'est pas n'importe lequel.
Il y a déjà peut-être 15 ans, même plus, je voulais faire un film sur la diaspora, qui aurait été un film qui aurait commencé en Russie, serait passé par la Pologne, toute l'Europe de l'Est, et qui se serait terminé autour de la gare du Midi à Bruxelles. Et je voulais faire un film un peu comme News from Home, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'acteur, j'aurais filmé une maison, quelqu'un qui passe devant, un arbre, un peu de forêt, n'importe quoi, dans ces pays-là. Et je voulais en fait que les langues bougent, montrer, bon, le russe amélioré avec un peu d'yiddish. Ça aurait déjà été des histoires qui se racontent, c'était ça un peu l'idée. Mais je voulais montrer comment les langues bougent, et puis arriver à Bruxelles, autour de la gare du Midi, où les gens débarquaient quand ils arrivaient d'Europe de l'Est. J'ai pas réussi à le traiter. Et puis, j'ai quand même eu, à un moment donné, l'idée de faire du cinéma commercial. Et ça a été d'ailleurs, c'est pour ça qu'à peu près, j'ai eu à peu près 10 ans d'impasse. J'ai commencé avec un truc très simple par rapport au cinéma, où ça allait comme de soi-même jusqu'à Jeanne Dillman, même News from Home. Les Rendez-vous d'Anna, c'est déjà plus ambigu. Parce que tout d'un coup, il y avait derrière quelqu'un qui avait dit, Chantal, tu deviendras un cinéaste qui fera des entrées, etc., etc. Et moi qui avais travaillé dans mon coin, ça m'avait, l'idée me réjouissait, je dois le dire. Bon. Et bêtement, parce qu'en fait, ça m'a rendu malade. Je veux dire, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, il se passera peut-être un hasard qui fera, mais ce ne sera pas un truc décidé, quoi. Et donc, comme le sujet juif continue à me travailler, j'ai voulu faire, dans l'ordre du cinéma, après ça, quelque chose qui était plus comme Autant en emporte le vent. Et donc, j'avais acheté les droits de deux livres de Singer, qui s'appelaient Le Manoir et le Domaine. Et là, c'était plutôt dans le romanesque. Et pas comme ma première idée. D'ailleurs, bon, mais en même temps, tout ça montrait que j'arrive. Je l'ai pas fait. Bon, je me suis dit à un moment, bon, ça coûtait très cher à faire, et j'ai quitté quelques mois aux États-Unis pour trouver de l'argent. J'ai pas trouvé. Mais en fait, j'ai pas insisté non plus. Je crois que si j'ai fait ni l'un ni l'autre, c'est pas pour les raisons que, bon, les raisons apparentes étaient l'un, oh, c'est pas assez commercial, je trouverais pas l'argent pour le faire. Et puis, bon. Bon, l'autre qui était la face extérieure de l'iceberg, c'était trop cher. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, j'arrivais tout simplement pas. Ça me travaillait. Et en même temps, je crois que quelque part, je voulais mettre ça de côté. Je crois vraiment. J'avais pas. La nécessité était sans doute là, mais peut-être pas assez forte. Et puis, il y a un truc de courage quand même. Parce que bizarrement, bon, il y a eu beaucoup de films où. On peut dire qu'il y a eu une sorte de mise à nu de moi, et bon, et par exemple, je tue l'aile au sens littéral du terme, mais je crois que là, c'était le point le plus, sans doute le plus sensible. En même temps, j'ai envie de dire que, pour reparler des trucs juifs, au moment où les juifs sont sortis de l'Égypte, après avoir été en esclavage, ils sont restés 40 ans dans le désert. Tout simplement parce que, quand on a été esclave, on reste avec cette mentalité, je crois, pendant un certain temps. Bon. Et je crois que si le film de Lanzmann s'est fait 40 ans après aussi, c'est parce qu'il a fallu que ça décante des deux côtés. Je crois que Bettelheim explique ça assez bien, c'est que quand même, ce qui s'est passé pour les Juifs dans les camps, ils sont devenus des esclaves, ils ont perdu toute dignité. Il en est resté quelque chose, je crois. Et que pour parler vraiment de ça, il ne faut plus parler du point de vue de l'esclave. Je pense que c'est pour ça que ça a pris tout ce temps-là, pour tout le monde. Parce qu'il y a plein de films juifs qui sortent en ce moment. Donc c'est que le temps était enfin venu, et donc pour moi aussi.
Donc ça, c'est pour le sujet et son urgence, ou le temps que ça met à être réellement urgent. Et ensuite, donc, il y a le type de cinéma que tu fais. Donc tu dis, tu as voulu le faire en romanesque. Moi, je pense pas un quart de seconde que tu aurais pu le faire. Je crois pas que ton talent soit là. Il y a toujours quelque chose de très descriptif et méditatif dans tes films, ou une sorte de tension dans l'immobilité, ou dans quelque chose de figé qui aimerait bouger, ou de mouvement qui aimerait ne pas se figer. Enfin, c'est toujours une dialectique entre ce qui est trop figé et ce qui bouge trop vite. Et donc, à un moment, tu as dû commencer à voir comment tu allais d'abord découper ces personnages et ces histoires, car, bon, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film et les autres qu'ils y aillent, c'est des histoires. Les gens racontent réellement des histoires. Donc, d'abord, le choix des histoires, et puis ensuite, le choix du principe. Alors, c'est un drôle de théâtre, ça ressemble à du théâtre, et je crois qu'on pourrait passer l'émission à essayer de savoir. Si c'est du théâtre, quel théâtre c'est ? C'est-à-dire, quel est le spectateur ? Qui sont ces acteurs ? Quel temps ont-ils devant eux ? Et comment, toi, tu as mis ta caméra devant tout ça ?
Ça devient plus compliqué pour répondre. Comment bon, le film, c'est... J'ai eu l'idée du film petit à petit. Un tout petit peu comme News from Home. Tout d'un coup, il y a eu l'idée conceptuelle. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de faire... Enfin, j'ai proposé de faire un film parce que je savais qu'il y avait une série qui se faisait sur les écrivains, sur Singer. Bon. Et puis, je suis allée en Amérique pour travailler là-dessus. je voulais aller chercher des livres dans une librairie yiddish. Quand je suis arrivée devant cette librairie, c'était devenu le quartier chinois. Et il y avait les lettres hébraïques du titre de la librairie qui étaient tombées. Et il y avait des bouts de bois qui... Bon, c'était plus ça. Et je me suis dit, bon... Et en fait, je voulais pas faire un film sur Singer. C'est bien évidemment que c'était un peu une occasion pour moi d'aller faire quelque chose sur ce qui me tenait à cœur. Je me suis dit, bon, ben, ça m'a fait un choc symbolique très fort de voir que même à New York, et je crois que c'est ça que les gens se disent, il y a une culture juive qui vit à New York, c'est faux. Même à New York, où on dit qu'il y a 2,5 millions de juifs, cette librairie n'a plus de place. Et Singer, qui écrit toujours en yiddish, est sans doute un des derniers, et est une sorte d'ovni, quoi. Bon, d'ailleurs, ces livres ne se lisent pas en yiddish, ils se lisent en anglais ou en français ou en hébreu. Bon. Et en plus, du côté d'Israël, il y a une négation terrible de ce qui nous a fait. Il a fallu, pour aller en Israël, changer d'être. Pour faire cet état, il a fallu changer d'être. Il a fallu échanger l'être pour l'avoir, quoi. Bon. La même chose en Amérique. Bien que ce n'est pas une terre que les juifs possèdent. La même chose, complètement. Bon. À part, bon, les très religieux, ça c'est encore une chose qui... Ça c'est encore un autre problème. J'ai trouvé, tout en faisant mes petites recherches, des textes, qui étaient des textes que des gens écrivaient dans des journaux yiddish, comme par exemple, comme quand les gens écrivent à Marie Claire pour avoir une réponse sur leurs problèmes amoureux, là c'est sur des problèmes de vie. Et donc c'était dire éditeur, et puis l'éditeur disait, bon, c'était soit des problèmes d'intégration, enfin toutes sortes de genres de problèmes. Et l'éditeur, c'était à ce moment-là, c'était un journal très socialiste. Maintenant, bon, et qui paraissait tous les jours. Maintenant, il paraît, je crois, une fois par semaine. Et il est plus tellement socialiste du tout. Mais enfin, et ce journal allait quand même assez fort dans le sens de l'intégration comme réponse. Mais je me suis pas servi des réponses. Donc j'ai trouvé plein de textes. Et les textes qui m'ont touché, je les ai réécrits à ma manière, en mettant plein de choses que j'avais entendues à gauche, à droite, et puis dans un certain style d'écriture, bon, qui est le mien. Et j'ai mélangé aux blagues, parce que bon, on sait tous à quoi servent les blagues juives, quoi. Et que bon, qu'elles servent à faire passer le réel, puisque c'est une sorte de mise à distance. Et je me suis dit, je peux pas, je dois faire pareil. Je dois mettre un peu faire raconter ces gens, et je dois mettre des blagues qui sont la même chose, finalement. Bon. Et puis, je repars de l'histoire de la librairie, je me suis dit, mais tout ça, ça n'existe plus. Donc, je voulais que ce soit quelque chose comme fantomatique qui passe. Donc, je voulais que ce soit des fantômes arrachés à la nuit. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. On sait forcément que l'acteur qui est là en face est vivant, mais il parle de quelque chose qui est mort. Moi, c'est un peu ça que je voulais. De la même manière, dans le début, New York est une sorte de mirage. Elle n'a pas vraiment de réalité, ni dans tout le reste d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est mort. Enfin. À un moment donné, j'avais envie d'appeler le film Eretz America. C'est comme ça qu'on dit sur Israël, on dit Eretz Israël, ça veut dire la terre d'Israël. Et l'Amérique a joué, pour beaucoup de juifs, au niveau du symbolique, pas tout à fait la même chose, parce qu'on ne dit pas à la fin du repas de Pâques ou à la fin des prières pour Pâques l'année prochaine à Jérusalem. Mais c'était quand même trouver un endroit qui ne serait pas complètement à soi, mais où on aurait la paix. Bon, en Israël, on n'a pas la paix, on a la guerre. Et donc, pour cette idée-là aussi était quelque chose de faux. Enfin, c'est plus une vraie idée non plus. Bon, donc tout était de l'ordre. Et ce qui me plaisait aussi dans le truc du fantôme, ça c'est plus pour revenir au cinéma, c'est que ça mettait bien en évidence que c'est de la lumière qui passe dans un projecteur sur des choses de celluloïde, quoi. Et que là, je revenais à une sorte de cinéma primitif qui l'avouait. En tout cas, dans le cinéma primitif, on le sent plus maintenant, parce qu'il y a quelque part l'électronique qui est passée par l'image de cinéma, je trouve. Donc on le sent plus, ce côté lanterne magique, quoi. Bon, comme s'il y avait eu ce truc formidable, je trouve, qui était passé au festival de Knock, où c'était à l'envers et on voyait juste, On voyait juste le cône lumineux et les gens fumaient dans la salle et on voyait la lumière. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, à la fois un monde, le monde yiddish qui est mort. Ce qu'il en reste, c'est du folklore, enfin qui est presque mort, je dirais. J'ai envie encore de lui laisser deux, trois petits brins de chance. Et j'aime pas le folklore qu'on en a fait. Bon, c'est pas un truc vivant, c'est déjà un truc... ça bouge plus, quoi. Ça ne bouge que chez les religieux, parce qu'eux, ils continuent à étudier. Et que, bon, la pensée qu'il y a sur la Bible continue à évoluer. Et c'est malheureusement ça aussi dont j'étais privée.
Ce que je trouve important dans ce que tu dis, c'est cinéma primitif, parce que tu as quand même toujours pratiqué quelque chose qui a à voir avec l'éblouissement du cinéma à ses débuts. C'est-à-dire que l'œil est écarquillé devant quelque chose et on laisse le temps remplir le plan avec l'espoir qu'il y aura un jeu de lumière ou un jeu d'acteur. Bon, tu n'es pas la seule à faire ça, mais c'est, je crois, ça qui est primitif dans le cinéma au sens où Griffith, là, est indépassable. Et c'est vrai que l'électronique est passée et que peut-être maintenant on a une chance de voir, en toute connaissance de cause, ce qui dans le cinéma était projection de fantômes, mais des fantômes qui, du fait même qu'ils étaient fantômes, rappelaient qu'il y avait eu de la vie, alors que dans l'électronique, on est dans une simultanéité telle que la vie n'a même pas le temps d'apparaître comme notion de s'imprimer. On est déjà dans la diffusion, l'irradiation du corps lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne maintenant tous les cinéastes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se raccorde au thème juif, dans la mesure où l'histoire juive est toujours une histoire qui est tournée vers un certain type de passé, soit un âge d'or, soit un âge de souffrance, soit il y a toujours un avant, 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 et peut-être qu'il y a une profonde coïncidence entre le cinéma et son histoire, juste un siècle, les Juifs et leur histoire, un ou deux millénaires, qui fait que peut-être, alors, cinq millénaires, qui peut-être, alors, relativise à ce que tu avais beaucoup dit à un moment où tu semblais très travaillé par le fait que, dans la religion juive, il y a l'interdit de l'image. Et quand même, tu fais des images, et je me souviens que tu disais toujours, je ne sais pas ce que je fais, ou c'est peut-être un péché, et je ne peux pas ne pas le faire, parce que c'est quand même ça que tu as envie de faire. Où est-ce que tu en es maintenant avec l'iconoclasme juif ?
D'une certaine manière, je pense que, en faisant des images frontales comme je l'ai fait, il y a quelque part la place de Dieu. Je sais pas, ça me fait honte de dire ça, c'est tellement énorme, mais je lui laisse sa place. Je pense que c'est pas des images d'idolâtrie, quoi. Bon, pourquoi quelque part, je ne sais pas si j'y croyante ou pas, mais pourquoi quelque part la notion de Dieu est tellement géniale, c'est que bon, bah alors ça ne peut pas être François Mitterrand, ça ne peut pas être Frédéric qui est à la télévision, ni enfin tous ces nouveaux dieux télévisuels, parce qu'il y a quelque chose ailleurs qui est au-delà de tous ces gens. Et donc, du coup, eh bien, on a une attitude libre. Donc, on ne va pas être impressionné et idolâtrer des gens qui sont sur Terre. En fait, quelque part, la notion de Dieu fait qu'on est des êtres beaucoup plus libres que s'il n'y en a pas. Il suffit d'en avoir la notion, c'est pas, même pas obligatoire d'être croyant, je crois. Bon. Et j'ai l'impression qu'avec le type d'image que je fais, ben, je ne suis pas dans la dénégation. J'ai l'impression que c'est comme si un rapport d'une personne à une autre, finalement. Je suis en face. Quelqu'un va au cinéma, il est en face. On en tient compte. C'est pas un rapport où quelqu'un aperçoit quelque chose par surprise. Je sais pas comment dire. C'est un peu complexe à expliquer, mais... Donc, bon, ben on est en face de quelqu'un d'autre qu'on peut pas idolâtrer. Puisque on est dans un rapport presque d'égalité. J'ai l'impression, avec l'image.
Non, mais moi, j'ai moins de scrupules que toi à dire qu'effectivement, il y a Dieu en tant que c'est une place dans la structure, qu'elle soit occupée ou pas, et peut-être tout à fait secondaire. Dans la mise en scène de ton film, parce que c'est une mise en scène frontale. Alors, effectivement, si on se met en face de quelqu'un,
on n'est pas à genoux.
On ne peut pas être à genoux par définition, puisqu'on est en face. Et que, alors là, s'embraye toute la capacité de parler. Moi, je ne suis pas du tout un expert dans la culture juive, mais je sais quand même que l'une des choses qui a été inventée dans cette culture, c'est le dialogue avec Dieu, au moins chez les Hassidim, et avec tout ce qu'il y a comme récrimination, blague, jouer avec jouer au plus fin, avoir le dernier mot, une version, disons, occidentale de ce qu'il y a aussi un peu dans le zen, par exemple. Mais que de toute façon, la place en face, elle est là. Et si elle n'était pas là, les gens ne parleraient pas comme ça, ne seraient pas à la fois aussi maladroits et aussi malins, ne ruseraient pas, ne raconteraient pas leur vie, ne se confieraient pas, ne feraient pas un truc qui va entre le courrier du cœur et la déclaration terrible. Et que moi, pendant tout le film, je me disais, mais bon, c'est une question que je me pose toujours. Hein. C'est très pratique quand on fait la critique de cinéma, de se demander, si ce n'était pas la caméra, ce serait qui ? Et selon la réponse qu'on donne, on voit à quel type on a affaire. En général, dans les mauvais films, à la place de la caméra, il n'y a personne. Personne ne pourrait être là. Des fois, c'est le public. Si au moins c'est le public et que le public répond, très bien. Des fois, c'est maman. Des fois, c'est un tel et personne d'autre, etc. Mais il y a toujours quelqu'un à la place de la caméra. Et là, je pensais que la seule solution possible pour comprendre ton film, c'était Dieu. Mais un Dieu très, peut-être absent, peut-être bienveillant, peut-être profondément indifférent, ou que ça amuserait de voir défiler ces fantômes qui sont drôles, qui sont géniaux, qui sont pas très éloquents. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'aimerais savoir comment tu as affronté le fait qu'il n'était pas question d'avoir des histoires superbement racontées. Et Dieu sait s'il y a des gens qui racontent des histoires juives d'une façon formidable. Mais raconter, c'est-à-dire plaider comme on plaide sa cause. Donc tu allais avoir des acteurs non professionnels, des cafouillages, des dérapages, des fois ils parlent très mal anglais, des fois, etc. Et que c'était cette inégalité-là dans le défilé des personnages qui allait quand même donner au film sa vérité globale. Est-ce que c'est pas un peu angoissant pour un cinéaste d'avoir à mettre en scène des choses qui vont être un peu pas complètement abouties ou réussies? La façon dont les gens disent les choses, par exemple.
Je pense que là, ça faisait partie du film complètement. À la limite, j'ai presque pas dirigé les acteurs dans ce film. J'ai fait beaucoup d'auditions, et une fois qu'il y avait quelque chose de bien qui se passait dans l'audition, c'était oui. Et de toute façon, il n'y avait pas le temps de les diriger, et donc je ne les ai pas dirigés. Et je les ai laissés être comme ils étaient, sans cruauté, je pense, vis-à-vis d'eux. Parce que j'ai pas essayé de les magnifier non plus, mais ils sont tous beaux quelque part, je trouve. Donc non, parce que à partir du moment où on n'est pas dans un récit, une narration traditionnelle, où s'il y a un moment où la narration dérape, on est déjà hors de cette narration et on n'est plus dans le film, que les gens soient un peu meilleurs, un peu cafouilleurs, ça... Bon, par exemple, si on voit quelque chose qui est de l'ordre de l'inverse, qui est par exemple un film d'Hitchcock, où tout est dans le calcul, quand il y a une donnée qui est fausse, plus rien ne va. Bon, là, comme il n'y a rien qui est dans le calcul, à la limite, ça va avec le film, je ne sais pas comment dire. Ça va avec le film, mais bon, par exemple, j'ai bien vu pour les blagues, la première blague qu'on a fait, une des fêtes, c'était « Life is like a fountain ». Bon, ben, je savais bien qu'ils n'étaient pas très bons, mais en même temps, il n'y avait pas à faire de performance. C'est pas un film de l'ordre de la performance à aucun moment pour les acteurs. Il y en a de temps en temps certains qui tout d'un coup ça l'est parce qu'ils sont comme ça. Et puis d'autres non. Et évidemment, bon, par exemple, je sais comment les acteurs réagissent au film. Les acteurs, eux. Alors ils disent, ah, celui-là joue bien, celui-là joue pas bien. Bon, alors ça, évidemment, pour eux, c'est raté. Mais quand même, la majorité des gens ne sont pas des acteurs, donc c'est pas comme ça pour eux que ça fonctionne. C'est l'un est plus sensible à l'autre pour des raisons alors de ce qui est raconté. Non, moi ça m'a pas gênée. Bon, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup travailler avec les acteurs et en général, je laisse pas faire trop. Je laisse faire de plus en plus, mais là, je suis pas beaucoup intervenue. Je suis intervenue beaucoup plus dans les auditions. C'est en fait dans les auditions qu'il y a eu quelque part, ça allait vers le travail, une fois que ça était, c'était dans la bonne direction, même si c'était pas parfait, c'était... De toute façon, on avait 15 jours, alors c'était à prendre ou à laisser. Et j'ai préféré prendre.
Ce que tu dis sur le temps, là, que le temps est limité, qu'il faut le prendre au moment où il arrive, c'est valable pour ce film, et c'est valable aussi pour un film que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Toute une nuit. Ah oui. Hein, qui se passait une nuit à Bruxelles, où sans rime ni raison, c'est un peu le même principe, hein. Oui. Des couples se font, se forment, se défont, se déforment, s'étreignent comme des fous. C'était un film très, très, très beau. Et sa force, c'était que ça se passait le temps d'une nuit. Là, tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup de calculs dans le film au niveau des acteurs, ça c'est vrai, mais il y a quand même un calcul global dans le film, c'est que tu pars sur un plan emblématique et très beau. C'est comme ça, Manhattan vu du point de vue de la mer, tout bleuté au petit matin, qu'une voix off. Donc tu fais partie plutôt de ces cinéastes qui commencent par avoir fait le ménage et il n'y a rien, et puis après on va peupler. Hein, c'est un problème de peuplement. Ton esthétique, bon, tu n'es pas la seule, je sais pas, on pourrait dire ça de Tati, de Fellini, il y a beaucoup de gens qui font comme ça. D'abord un truc vide, et puis on peuple, et puis à un moment on pense qu'il y a assez, parce que après on ne sait plus. Dans la mesure où on a suivi chaque personnage un par un et qu'on ne les abandonne pas, il faut bien à la fin les faire tous revenir une fois dans une grande farandole, mais il n'y aura pas d'autre histoire que celle-là, donc celle du peuplement de l'écran. Et donc tu avais quand même à faire arriver quelque chose qui est un peu dramaturgique, qui était « ça se passe la nuit », et puis le jour se lève quand même. Et à la fin, le jour s'est complètement levé. Il y a d'ailleurs un moment extraordinaire qui est le vieux qui cherche son chemin, qui veut retourner à Varsovie et qui cherche le chemin et tout le monde veut lui donner le chemin. Et il pleut, enfin, il bruine, c'est terrible. Et il y a 1, 2, 3 parapluies identiques, les gens viennent. Et, bon. Et à partir de là, on est quand même... le film est fini parce qu'on anticipe sur le fait que les lumières vont se rallumer. Et on ne va pas au-delà de ça. Donc, comment tu expliques ce passage du jour à la nuit, comme ça, chez toi? Ou plutôt, non, de la nuit au jour.
Je vais... Peut-être que c'est un peu... J'ai jamais pensé, hein, j'ai jamais réfléchi de pourquoi. Mais j'ai toujours besoin de la nuit parce que j'ai besoin que ce soit épuré. Au début, je veux pas des détails réalistes. Et au bout d'un moment, quand le film est fini, on laisse plus le réel entrer. J'ai l'impression que c'est pour ça, j'ai jamais réfléchi pourquoi. Il y a une sorte de logique, c'est un peu lyrique aussi. Et puis, il y avait une fin tout à fait possible, et qui aurait été probablement une fin apparemment plus forte dans le film, qui était terminée à la nuit avec ce vieux monsieur qui chante, et qui dit, à la fin, qui dit « la vie est formidable, quelle belle nuit, la vie est formidable, just for living », il dit en anglais. Et moi, quand il a eu fini de chanter... Je voulais qu'il dise encore quelque chose, mais je ne lui avais pas dit avant. Donc je lui criais ce qu'il devait dire. Alors bon, il entendait vaguement. Alors, il reprenait, et puis à la fin, après avoir repris tout ce que j'ai dit, c'est lui qui a rajouté, mais vraiment comme ça lui-même, « just for living ». Et il a 90 ans. Bon. Et on était comme ça. Moi, j'avais... Bon, c'est vrai, « just for living », la vie est belle, juste pour la vivre, quoi. Bon. Évidemment, on était... Mais je me suis dit « non ». Il faut une coda, il faut quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, parce que bon, c'était beaucoup plus évident de finir à ce moment-là. Et d'ailleurs, bon, on m'a beaucoup dit coupe la fin. Et je me suis accrochée à cette fin. Je me suis dit, bon, on n'est pas dans un film où voilà le moment fort final, on va mettre une fin. Il faut que ça reparte. Et ça pouvait repartir que dans le jour. Mais je n'ai pas réfléchi, j'ai pas vraiment. Je sais pas. Je peux pas m'expliquer vraiment pourquoi.
Il y a une autre question toute bête, c'est... Le film est en anglais, avec différents accents. Ça se passe en Amérique. Enfin... Pourquoi l'Amérique, ou plutôt, où est-ce que tu en es, toi, avec l'Amérique?
Moi, j'ai fini avec l'Amérique, c'est fini. C'est-à-dire que... Bon, dans ma vie à moi, quand je suis partie, que j'avais 21 ans et que je suis partie à New York... Ça a été extraordinaire pour moi. Bon, pour les raisons habituelles de quitter sa famille, même si je l'avais déjà quitté avant, c'était pour venir à Paris, c'est trop près, quoi. Et puis, bon, j'ai vu ces films expérimentaux, et puis j'ai travaillé, je faisais des petits boulots, je savais bien que j'étais complètement libre. Bon, et ça m'a vraiment donné une impulsion, une énergie, etc. Ça a été, comme tu disais, ça a été un moment que j'ai plus jamais retrouvé après, que j'ai toujours recherché, j'y retournais régulièrement, etc. Et puis, j'ai fait le film, ça a été vraiment un très beau moment, ce film. Il y avait quelque chose qui s'est passé avec les acteurs, avec le moment, avec quelque chose pour moi qui n'était pas de l'ordre de la résolution, mais qui était quand même de l'ordre de la réconciliation avec certaines choses. Bon. Et donc après, je me suis sentie vraiment bien. Et de nouveau, j'ai eu envie d'y retourner. Et j'y suis retournée cette année en été. Et j'ai montré donc le film aux acteurs, etc. Et puis, bon, c'est tout con à dire, mais j'ai pas supporté. Bon, d'abord, ce qu'ils font avec la culture, etc. Parlons même pas de culture, hein. Ça, c'est encore autre chose. Et de la manière dont c'est venu ici, pour le pire, ça, c'est encore un autre truc. Mais la misère. Les gens déglingués dans la rue, 400 000 personnes déglinguées dans la rue, je pouvais pas supporter, ça m'a... Je peux pas vivre, on peut pas vivre dans une ville où il y a Park Avenue, propre, nickel, et à côté, et avec Marilyn, avec qui j'étais, donc qui est mon amie d'enfance et qui s'occupe de ma maison de production à Bruxelles, on disait, parce qu'elle avait lu un livre qu'a écrit Martin Eden.
Jack London,
où il y avait déjà tous ces pauvres gens, etc. Je ne sais plus lequel c'était. Et elle disait, si on organisait tous ces gens, on fait sauter New York. Parce que 400 000 personnes, mais seulement ces gens sont au-delà de toute possibilité. Ils sont déglingués, foutus, c'est des zombies, quoi. Et ils sont là, c'est pas possible. Et c'est quand même comme si cette ville ne vivait. Elle produit ça. Alors il y a un peu plus de ces gens. Moi, c'est ça. Bon, ce qu'on voit à la télévision ici, ce qu'on nous renvoie ici, la nourriture, la culture, tout. Le rêve américain, en plus de libéralisme et de tout ça qui nous a envahis plus que jamais ici, qui est d'ailleurs complètement lié à la guerre 40-45, encore un de ses effets pervers, je pense qu'on se serait beaucoup moins américanisé si les Américains n'étaient pas venus, entre guillemets, nous sauver. Je peux plus, moi, ça me dégoûte. Vraiment, je peux plus. C'est ce moment... Et ce qui est fou, c'est qu'on a été avec un petit garçon de 8 ans qui avait déjà le rêve américain. À 8 ans, il rêvait déjà de l'Amérique. Eh bien, on était dans le métro, il y avait des gens qui venaient mendier. Eh bien, il ne les voyait pas.
Dans la série des identifications possibles et impossibles, c'est inhérent au thème juif. Donc, tu es né en Belgique. Et l'Amérique, bon, on va pas en reparler parce que je crois qu'on va en parler beaucoup cette année parce que c'est partout. C'est dans le film de René, c'est dans ce que font les Américains eux-mêmes. Parce que ce qui arrive à l'Amérique arrive évidemment à l'Europe, puisque depuis le plan Marshall, l'Europe est en partie américaine. Et donc ça l'oblige à prendre conscience que l'oncle Sam est peut-être un enfant qui a mal tourné aussi. Et puis il y a l'Est qui bouge, donc c'est en train de se rééquilibrer. Donc ma deuxième question géographique, c'est, et la Belgique alors? Tu en es où avec la Belgique aujourd'hui?
Je crois que là, ça n'a pas tellement bougé. La Belgique, c'est vraiment devenu le lieu où j'ai mes parents et mes amis, ce qui est quand même très important. Et comme avec l'âge, le rapport se simplifie avec les parents, ça s'est simplifié aussi pour moi avec Bruxelles, où parfois, il y avait des moments où j'allais à Bruxelles pendant des semaines et je ne les voyais pas. Là, maintenant, en plus, mon père a 70 ans, il est en pleine forme, mais... Le nombre de fois où quand je dis peut-être l'année prochaine, il commence à dire l'année prochaine, je ne serai peut-être pas là. Alors j'ai une panique terrible de ça. Parce que j'ai toujours l'impression qu'ils ne m'ont pas complètement terminé. Et qu'ils n'ont pas encore le droit de disparaître, qu'ils me laisseraient comme un enfant inachevé. Bon, donc je vais les voir, quoi. et puis bon, il y a des amis d'enfance et ça ne se refait jamais. Moi, je vois, par exemple, je vis avec quelqu'un qui a passé la plupart de son enfance ici. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux amis d'enfance que je n'ai pas, moi, ici. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que je retourne à Bruxelles. À part ça, à part qu'il y a des choses très belles à Bruxelles et qui me touchent, j'ai jamais eu, finalement... Un rapport tellement fort, je peux pas dire que ça ait bougé pour ça. Je trouve que c'est un pays où la culture, dans ce qu'elle peut avoir de lourdeur et d'oppression, a moins de poids, et que donc, encore une fois, il y a des choses beaucoup plus atypiques qui peuvent se passer à Bruxelles qu'ici. Il y a un sentiment où on n'a pas à se référer à un modèle tout puissant au-dessus. Et donc finalement, il y a un truc plus libre. Que je croyais qu'il y avait à New York avant. Et que j'y crois plus du tout. Ou alors dans une telle marginalité, et encore je crois même plus. D'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses qui se ressemblaient entre Bruxelles et New York. Bon, ne fût-ce que les maisons carrées, les briques, et certaines choses d'architecture, et le côté un peu fait n'importe comment par moment, qui donnait ce sentiment de liberté aussi. Bon, mais maintenant, Bruxelles est devenue le cœur de l'Europe. Les Anglais rachètent les maisons, les Français rachètent les maisons, ça monte. Ce sera bientôt une ville... comme ces sortes de villes internationales où on peut plus, où il faut gagner beaucoup d'argent. Ce qui n'était pas le cas, c'était quand même un paradis au niveau de... On pouvait vivre avec très peu de moyens, agréablement.
Donc, dans notre tour géographique mondial, il y a quand même un endroit du monde où ça bouge d'une façon hallucinante en ce moment, c'est l'Est européen et l'URSS. Je ne sais pas si tu y es déjà allé.
Non, j'y vais.
Mais bon, c'est aussi lié à l'histoire juive, donc si tu veux, c'est l'autre versant, non pas où est-ce qu'ils sont allés, mais d'où est-ce qu'ils venaient, plus ou moins. Et est-ce que maintenant tu n'es pas un peu, comme tout le monde d'ailleurs, logiquement intrigué par cette partie-là, qui est aussi une partie de ton histoire?
Oui, et d'ailleurs je vais faire un film sur Anna Akhmatova, mais je vais essayer de ne pas passer par la Pologne. Il y a... Bon, ça, c'est, je ne veux pas encore leur taper sur les dos, les pauvres, parce qu'ils en ont pris pour leur grade ces derniers temps. Mais ma mère, elle a été dans les camps, mais ceux qu'elle déteste vraiment, c'est les Polonais. Parce qu'elle dit que c'était complètement irrationnel, quoi. Et il y a eu un moment, quand je voulais préparer le film sur la diaspora, où je voulais y aller, elle m'a dit « n'y va pas ». Mon grand-père, il est retourné dans les années 50 pour voir s'il restait encore des gens. Il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait, qui lui a dit « Partez, il va vous arriver quelque chose ». Et elle a réussi à me transmettre cette peur, quoi. Je sais bien que si j'y vais, il ne m'arrivera rien, mais j'ai pas envie d'y aller, de me sentir mal. Même si c'est que du fantasme, c'est quand même là.
Donc, merci Chantal Akerman. Comme on a annoncé au début de l'émission, on se verra la semaine prochaine, cette fois-ci pour discuter alors un peu plus généralement comme ça du cinéma ou de comment tu le vois là maintenant à Paris dans ce bel appartement du 20e avec une lumière extraordinaire. Donc l'émission est finie, mais moi j'ai quelque chose à dire. Là c'est pour une fois hélas du domaine de l'information. Il faut quand même que les gens sachent que depuis plus de 20 jours maintenant, une femme cinéaste d'origine bulgare qui travaille en France depuis presque 20 ans maintenant a décidé de faire une grève de la faim. Alors, évidemment, un artiste ou un cinéaste, qui plus est une femme et qui plus est étrangère, faisant une grève de la faim, on se demande pourquoi, c'est pas courant. C'est quelqu'un qui s'appelle Maria Koleva, elle a fait beaucoup de choses dont on dit comme ça un peu rapidement, mais j'aime pas le mot et je crois qu'il faudrait plus l'utiliser maintenant, marginal. Disons que ça a beaucoup circulé, mais ça n'a pas eu beaucoup de reconnaissance. Dans la profession, dans l'establishment, mais quand on connaît ces films, on sait que leur lieu naturel, leur lieu logique, parce que c'est une sorte d'expérimentatrice chimique du social, Maria Koleva, elle en parle formidablement bien, et c'est un œil très aigu, c'est quelqu'un qui vient aussi d'ailleurs, ça aurait dû être la télévision. Donc elle a décidé, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui est têtu comme une mule, de ne plus manger tant qu'il n'y aura pas... l'un de ces films qui passera à la télévision. Alors, il faut le savoir, évidemment, c'est un symptôme, comme on dit, mais enfin, il ne faut pas se débarrasser des symptômes sous prétexte qu'ils renvoient à une situation plus grave. La situation globale, disons, des cinéastes par rapport à la télé n'est pas bonne, ça on l'a souvent dit. La situation particulière de Maria Koleva, qui a le courage d'aller jusqu'au bout d'une idée un peu folle, mais d'une idée qu'on comprend quand on la connaît, c'est pas quelque chose qu'il faut que les médias passent complètement sous silence. Donc ceci s'adresse à tous les décideurs du PAF, qui ne soient pas pafisés au point de ne pas prêter attention à ça. Voilà, c'était la note grave, mais incontournable, de Microfilm. Et à la semaine prochaine pour Akerman, deuxième partie.
Cette émission a été diffusée la première fois le 8 octobre 1989 sur France Culture. Et nous n'attendrons pas la semaine prochaine pour écouter la deuxième partie, que vous pourrez entendre dès demain dans les Nuits de France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des Nuits sur le site franceculture.fr.